Midi 55, France Culture, deuxième partie de la Grande Table. Caroline Brune.
Merci Ludovic Piétenu. Orlando, Magnanville, Birstal, en l'espace de moins d'une semaine, comme l'écrit Dominique Moisy dans Les Échos ce matin, le cycle de la violence semble s'être accéléré sous nos yeux. Et encore, il ne parle pas des violences sociales et autres brutalités footballistiques qui ont marqué ces derniers jours en France. Face à cette escalade de la violence, pour reprendre ces termes, on est pris d'une sorte de vertige. Et si nos sociétés pacifiées étaient en train de renouer avec une forme de brutalité qu'on croyait appartenir au passé, au-delà de l'émotion, voire dans certains cas de la sidération, comment penser ces actes? Ont-ils quelque chose en commun? Nous avons, pour répondre à ces questions difficiles, invité le sociologue Michel Viviorca, qui ne réfléchit pas qu'à la primaire. Bonjour Michel Viviorca.
Bonjour.
Qui réfléchit depuis fort longtemps, peut-être même plus longtemps encore, aux questions de racisme, de xénophobie, de terrorisme et autres joyeusetés. Vous avez signé, Michel Viviorca, en 2004, une somme sur la violence, parue aux éditions Ballon, qui depuis est sortie en poche chez Fayard en 2012. Vous êtes le directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, l'École des hautes études en sciences sociales, et par ailleurs le président de la Fondation Maison des sciences de l'homme. Pour dialoguer avec vous aujourd'hui, nous avons proposé à Hélène Leuillet de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Hélène Leuillet est maître de conférence en philosophie à l'Université Paris-Sorbonne et psychanalyste. Vous avez écrit et travaillé sur la police, sur le terrorisme. D'ailleurs, vous signez un article intitulé « Radicalisation et terrorisme » dans la revue Cité, à paraître après-demain. Alors, première question, Michel Viviorca, on est effectivement un peu mal à l'aise face à ces différentes formes de violence. Vous écriviez vous-même dans votre livre en 2004 qu'il existait d'immenses territoires de la violence. Est-ce que c'est possible, malgré tout, d'en dégager un fil conducteur ?
C'est très difficile. C'est pas la même épaisseur historique. C'est pas le même rapport à l'espace. Vous avez des violences qui restent locales. Vous avez des violences locales qui ont une signification planétaire. Vous avez des violences qui entretiennent un rapport à la politique, d'autres qui n'en entretiennent aucun, etc., etc. Donc c'est très difficile. La deuxième chose que je voudrais dire, ça étonnera peut-être nos auditeurs, c'est que aujourd'hui, la violence, c'est le mal absolu. C'est devenu un tabou. Plus personne ne peut imaginer que la violence fasse sens, parfois. Si on était il y a 50 ans, et si au lieu d'avoir un sociologue, vous aviez un philosophe de l'époque, je pense à Jean-Paul Sartre, vous lisiez à l'époque la préface, par exemple, qu'il écrivait pour Les Damnés de la Terre, et
de
François Fanon, et c'était, comment dirais-je, une explication, une justification d'une violence extrême. Il y avait des courants entiers de l'intelligentsia qui étaient révolutionnaires, qui étaient anti-colonisation, etc. Et qui voyaient dans la violence aussi la marche de l'histoire, l'émancipation, la libération. C'est fini. Aujourd'hui, on n'entend nulle part ce genre de... Bon, et donc, on est comme envahi par toutes ces réalités et tous ces imaginaires d'une violence qui semble nous submerger, qui nous semble ne plus avoir aucun sens, qui nous semble être un mal absolu qu'il faut éradiquer, un peu comme on éradique qu'on essaie d'éradiquer, parce qu'on n'y arrive évidemment pas, une maladie. La seule qu'on ait à peu près éradiquée, c'est la variole, je crois. Donc voilà, je crois qu'il faut avoir ça aussi en tête. Alors, vous l'avez dit vous-même, les hooligans, les casseurs, Orlando, le terrorisme, les tueries, les deux policiers, enfin... Est-ce qu'il y a une unité de tout ça? Oui, ça nous révulse. Ça nous révulse. Mais en dehors de ça, dès qu'on analyse cas par cas, l'analyse se diversifie et on a de plus en plus de peine à trouver que ça fait un seul et même problème.
Est-ce qu'on ne peut pas voir aussi, il y a cette idée de la révulsion dont vous parlez, Michel Viviorca, est-ce qu'on peut aussi penser qu'on a l'impression d'un retour du refoulé dans nos sociétés, de cette violence, et que c'est un effet de loupe, peut-être même du fait de la surinformation ou de ces images qui circulent en boucle alors qu'il y a quelques années encore, ça ne circulait pas. Donc là, le fait qu'on ne cesse de les voir, compte tenu de la révulsion que cela procure, cette violence, on a du mal à la penser parce qu'en effet, on n'y est plus du tout habitué, mais ça n'est pas un retour de la violence, c'est un effet d'optique.
Il y a deux dimensions qui sont difficiles à séparer. Il y a l'objectivité des faits et la subjectivité de nos émotions, de nos passions, de nos réactions, de nos représentations. Et donc, il faut circuler entre ces deux registres. Il y a des gens qui font des statistiques sur des centaines d'années et qui nous disent il y a moins de violence que dans le passé. Bon, peut-être qu'objectivement, il y en a moins. Alors, à quoi tient, dans ce cas-là, ce sentiment très fort que nous sommes envahis par la violence? Alors, certains diront, c'est le rôle des médias, c'est la façon dont ils fonctionnent, les réseaux sociaux, tout ce qui est cette zone grise entre les médias classiques et les gens, tout ça en rajoute certainement. D'autres apporteront d'autres explications,
vous,
peut-être plus
politiques.
Moi, je dis qu'il faut regarder tout ça, on peut pas se contenter, il faut penser de manière complexe ces questions-là. Mais moi, j'ajouterais autre chose. Je pense aussi que la situation politique qui a été évoquée dans ce journal il y a quelques minutes, je pense qu'elle pèse très lourdement sur ce climat. Il y a une sorte de d'hystérisation en ce moment du débat qui fait que tout est radical, tout semble radical et tout est perçu comme tel et parfois devient comme tel. Et donc peut-être que s'il y avait moins au niveau politique, moins de haine, plus de capacité de se parler, de trouver des solutions négociées comme ça a été évoqué à propos d'une affaire ou d'une autre. On est aujourd'hui dans une crise institutionnelle et politique profonde. Et ça hystérise la réalité et les représentations de la violence.
Hélène Leuillet.
Oui, merci. Effectivement, que ce soit un effet d'optique et que ça nous révulse, ça indique une chose, c'est que c'est un symptôme social. Quand on est malade, effectivement, ça commence par des symptômes. Donc on éprouve des symptômes et un symptôme doit toujours être pris au sérieux. Donc même si on peut toujours faire des statistiques comme vous l'évoquiez, de toute façon, le fait qu'il y ait cette violence perçue dans le social, déjà en soi, c'est à prendre en compte. Et du point de vue de l'unité, il y a quand même quelques facteurs. Vous venez de rappeler à l'instant que on pourrait trouver des solutions négociées. La violence, il y a d'ailleurs un grand facteur unitaire, très simple, très basique, c'est que c'est l'opposition du langage. Genre, on passe à l'acte violent quand on a le sentiment de ne pas être entendu, ou bien, quand on veut, ça c'est plutôt du côté du terrorisme, ne pas passer par le langage pour agir en politique. Donc la violence est toujours action directe. On court-circuite le langage, on estime, à tort ou à raison, que le langage en politique ne sert à rien. Ça ne sert à rien discuter, de toute façon les solutions sont déjà trouvées, de toute façon les rapports de force étant ce qu'ils sont, ça ne sert à rien, ou bien alors on a essayé et puis ça n'a pas marché. On a tout effectivement un panel, là, une diversité, mais dont le point commun est quand même de renoncer au langage. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui entrent en ligne de compte. On le voit dans le terrorisme avec le dogme de l'individualisation du djihad, proclamé en 2002 par Al-Zawahiri. C'est-à-dire que le point commun aux violences d'aujourd'hui, c'est qu'elles sont individuelles. Ce qui d'ailleurs pose parfois des problèmes pour savoir si le passage à l'acte, il est délibérément un refus de passer par le langage, ou bien si c'est un passage à l'acte psychotique qui est déguisé par des mots d'ordre empruntés à de la violence. On a du mal. Pourquoi ? Parce que les actes sont beaucoup individuels. Alors, bien entendu, les attentats du Bataclan étaient quand même déjà programmés par un groupe. Mais, enfin, là, on voit bien Magnanville, on voit bien l'assassinat de Joe Fox
en
Grande-Bretagne. Bon, on a affaire à des actes individuels.
Orlando aussi.
Oui. Et puis, enfin, dernier argument de l'unité de la violence, c'est que la violence se présente toujours comme une contre-violence, comme une légitime défense. Même Ben Laden disait, le premier terroriste, c'est le président des États-Unis. La violence se présente toujours comme une contre-violence. Alors après, on peut là encore faire des distinctions, mais je dirais que moi, il y a quand même ces trois facteurs d'unité.
Michel Vivirka.
Je vais reprendre au moins les deux premiers. Je dirais
un court-circuit du langage et les violences individuelles.
Voilà. Alors j'utiliserai un autre vocabulaire, mais je serai assez d'accord avec vous, avec simplement une nuance. Moi, je dirais, l'espace de la violence s'élargit lorsque l'espace du conflit négociable, institutionnalisable, se rétrécit. Et c'est un peu ce qu'on voit en ce moment. Ça, c'est une première chose. Mais je nuance aussitôt par deux arguments. Le premier, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'existence de situations où la violence devient une fin en soi. La violence pour la violence, la cruauté. Je dirais même, prenez les phénomènes de hooligans dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a une dimension banale, si je peux dire, des supporters qui exagèrent, etc. Et puis il y a des gens qui viennent uniquement pour le plaisir de la violence, pour la jouissance de la violence. Et donc là, on rentre dans un autre univers de sens, si vous voulez. Donc, bon, et la deuxième façon de nuancer un peu, mais je suis d'accord avec l'idée générale, c'est que la violence peut être instrumentale. Elle peut être calculée. Des personnes très froides utilisent la violence, y compris pour faire progresser leur cause dans un conflit. Donc voilà les nuances que j'apporterais, mais le raisonnement de fond, je suis d'accord. Oui. Maintenant, sur l'individualisation de la violence, tout dépend de ce que l'on considère comme phénomène de violence. Je crois que oui, l'individualisme pèse très très fort sur les conduites des acteurs violents, y compris lorsqu'ils commettent les pires horreurs. Je me souviens de Mohamed Merah, ce qui m'avait frappé entre autres choses, c'est qu'il se baladait avec une caméra GoPro sur le crâne. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que c'est comme individu que j'existe et que je montre au monde ce que je suis capable de faire. Donc vous avez raison. Cela n'empêche pas de réfléchir aux formes organisées qui font que la violence n'est pas simplement le fruit de l'individualisme. Elle a beaucoup à voir avec, mais il faut quand même un jour qu'il y ait... Regardez ce dont discutent les spécialistes à propos de Daesh. Les spécialistes vous disent, ça va se terminer comme État ou comme quasi-État. Les armées progressent, ça traîne un peu parce que c'est un peu comme une course cycliste, si vous voulez. Vous savez, il y a des moments où les gens font du surplace, donc ça laisse... pour être sûr de gagner, donc ça laisse un peu de répit à Daesh. Mais Daesh, comme quasi-État, c'est sur la fin. Mais tout le monde sent très bien, c'est pas pour autant qu'il n'y aura plus d'organisation, de réseau, etc. Donc, voilà. Et donc, nous ne sommes pas en désaccord, mais je dirais, l'analyse de ces phénomènes, il y a d'autres phénomènes de violence dont on ne parle pas maintenant, mais l'analyse de ce type de phénomène nous oblige à faire une sorte de grand écart intellectuel, à prendre en compte ce qu'il y a d'individuel, de subjectif, personnel, et en même temps, j'exagère peut-être, la géopolitique, les grandes affaires du Proche-Orient, etc.
Hélène Leuillet.
Oui, non, bien entendu, hein, j'entendais pas dire que de toute façon, le passage à l'acte individuel était nécessairement le fait de loups solitaires, qui n'aurait aucun rapport avec les organisations. Il y en a, bien sûr, et c'est même ce qu'a inventé Ben Laden et qu'a repris Daesh, et vous avez raison, moi je pense pas que la forme de l'État, de toute façon, soit significativement très différente. Hein. Certains ont dit... au moment où Daesh est apparu, voilà quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à Al-Qaïda. Je crois qu'on a beaucoup sous-estimé les points de ressemblance, les lignes de force de ces organisations qui existent, qui sont finalement qui lancent des appels à projets, qui financent dans une certaine mesure des projets d'attentats, mais qui suppose quand même un passage à l'acte individuel. Je pense que ça, pour ce phénomène de violence un peu insurrectionnel, on le voit très bien. Et c'est assez analogue quand même de ce point de vue-là, je sais pas ce que vous en pensez, au phénomène de foule des supporters, hein, qui à la fois ont besoin d'être pris hein, dans une équipe, de faire flamber une sorte de nationalisme, etc., et qui en même temps sont des individus. Alors, autre point d'accord avec vous sur le fait que, bien entendu, il y a un symptôme tout à fait nouveau là, de la violence contemporaine quand elle s'applique à nos sociétés, hein. Il y a ces grands invariants, et puis il y a quand même l'application aujourd'hui. Alors moi, je le dirais un peu avec mes mots de psychanalyste, hein, c'est que, dans une certaine mesure, c'est quand même révélateur hein, que ces flambées de violence aujourd'hui qui apparaissent aussi bien dans le sport qu'en politique que dans la police se produisent après les grands attentats. C'est-à-dire que c'est ce que nous on appelle le trauma quoi en psychanalyse. Le trauma, c'est d'abord un facteur de répétition et c'est pas seulement l'effet de la violence, mais c'est aussi une cause de violence, le trauma, bizarrement. Et les attentats réussissent ceci, c'est à redonner en quelque sorte sa voix, entre guillemets, parce que c'est pas une voix du langage, mais enfin, sa voix à la violence dans une société. Et de ce point de vue, on peut dire aussi qu'il y a quelque chose de la pulsion. Là aussi, je parle en psychanalyse, qui de toute façon dans nos sociétés a du mal à se symboliser. Et on voit bien dans le sport, voilà, il y a quelque chose. La violence attire parce qu'elle permet ce truc formidable qui est de décharger la pulsion. Et quand il n'y a pas d'autre moyen de symboliser la pulsion, effectivement, la violence flambe. Donc, moi, je dirais, il y a ces deux éléments-là du symptôme social qui sont très importants dans le jour d'aujourd'hui pour expliquer.
Vide politique, symptôme social, oui, et affirmation identitaire, affirmation de soi.
Et quoi. Dernier point aussi. Le regain d'actualité des idéologies violentes. Hein, on dit que l'assassin de Joe Fox était néo-nazi. Aujourd'hui, les violences policières, ça quand même s'accompagne de votes policiers massivement FN, d'idéologies violentes qui retrouvent droit de cité en politique.
Michel Bévirca.
Oui, on voit même aujourd'hui des intellectuels, d'ailleurs très respectables, demander par exemple qu'on réhabilite Robespierre et qu'on ouvre une rue Robespierre à Paris. Et j'ai regardé d'un peu près les arguments, c'est très intéressant parce qu'il y a encore une certaine retenue. C'est-à-dire, il faudrait une rue Robespierre parce que, je simplifie l'argumentation, parce que il n'est pas seulement l'homme du moment le plus nodal, le plus central de la terreur. Il est, c'était pas l'irréductible, je crois. Hein, enfin, et puis il a apporté beaucoup à tout, à l'ensemble du processus révolutionnaire. Donc, ne le réduisons pas à cette dimension. Mais quand même, on voit revenir, si je peux dire, la révolution de cette manière-là. Donc, on sent très bien qu'il y a dans notre pays aujourd'hui, et pas seulement dans notre pays, des logiques qui ne trouvent plus leur traitement politique, qui ne trouvent plus leur langage, si je puis dire, ou leur jeu de langage. Hein, et ça monte. J'aurais dû juste dire deux choses. Un, il y a aussi des logiques d'imitation qui ne sont pas forcément compulsives ou pulsionnelles. On sait très bien, par exemple, qu'il suffit qu'il y ait un cimetière juif avec des profanations de tombes, pour qu'il y en ait 3-4 autres, ça donne des idées, simplement. Alors, vous évoquez la psychanalyse, les sociologues connaissent bien Tarde, Gabriel Tarde, qui a théorisé ces phénomènes d'imitation. Et puis, je voulais dire aussi que ce que vous avez décrit comme venant après, je voudrais dire deux choses ici. Premièrement, ça peut venir avant. Si vous regardez Charlie Hebdo,
après un attentat ou avant,
la question du trauma. Juste avant, il y a eu 2-3 petits épisodes qu'on a oubliés. Mais je me souviens, un commissariat de police ou un type un peu fou, apparemment, a tenté de blesser ou de tuer au couteau un commissaire de police, un agent de police, des choses comme ça. Il y a eu 2 ou 3 petits événements qui n'étaient pas du tout liés directement à une organisation, mais qui laissaient penser qu'on rentrait un peu dans une phase un peu chaude, si je peux dire. Et puis deuxièmement, je voudrais dire aussi autre chose. Je pense que nous sommes dans une période où il y a peut-être moins de violence que ce qui nous guettera si la montée politique des extrêmes droites, et pas seulement en France, est un échec. Tant que ça monte, ces phénomènes-là, alors ceux qui peut-être passeraient à la violence sont retenus par, justement, par l'hypothèse politique, si vous voulez.
L'espoir d'un débouché dans le langage, oui, voilà. On va y revenir.
Mais le jour, pas dans l'action directe. Le paradoxe, c'est que le jour où un tel mouvement retomberait significativement, alors ça peut libérer de la violence. Et donc, l'après...
Dangereux ce que vous dites.
Oui, je le pense. Je pense qu'il faut être extrêmement attentif à ça. Il faut étudier les relations entre la montée politique de l'extrême droite et les expressions de violence qui ont des idées assez proches, et que c'est pas si simple que ça, mais c'est un des scénarios qu'il ne faut pas exclure.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Interrogation, réflexion sur là où les violences d'aujourd'hui, en compagnie du sociologue Michel Wiewiórka et autour de la table la philosophe et psychanalyste Hélène Leuillet. Vous disiez, Michel Wiewiórka, en commençant cette émission, que nous n'avions plus l'habitude de voir ces phénomènes de violence dans nos sociétés, que nous étions déshabitués d'une certaine façon par la pacification de nos sociétés, et donc que nous avions tendance à être d'autant plus choqués ou d'autant plus intolérants parce que nous ne trouvions plus de sens à cette violence. Mais est-ce qu'on peut trouver un sens à la violence ?
Alors, je voudrais proposer un raisonnement qui est un peu compliqué, excusez-moi. Je pense que nous devons nous interroger pas seulement sur ce qui passe à la violence, mais sur nous-mêmes, c'est-à-dire ceux qui sommes victimes ou concernés sans en être... Bon. Et nous poser des questions, ça c'est la première étape de mon raisonnement, nous poser des questions sur justement ce langage qui n'est plus possible, je reprends vos catégories, sur cette rupture que vient signifier la violence en regardant les deux côtés et pas simplement un seul côté. Mais on va me dire aussitôt, mais dans ce cas-là, vous vous excusez, vous pardonnez, vous vous auto-flagellez. Non, pas du tout. Je pense qu'en réfléchissant sur nous-mêmes, dans ces logiques de rupture, c'est-à-dire nous qui sommes du côté, du refus de la violence, eh bien nous pouvons mieux affronter la violence, et non pas moins bien. Vous comprenez, je prends ces affaires de terrorisme. Ça a quelque chose à voir avec le rapport de l'Occident et de l'Islam. Ça a quelque chose à voir avec la colonisation et la décolonisation. Ça a quelque chose à voir avec des logiques d'impérialisme. Mais dire tout ça...
Tout le monde n'est pas d'accord. Hein,
mais bien sûr, mais dire uniquement ça, c'est évidemment se mettre en position de continuer à recevoir des coups. Mais dire, nous combattons la violence, mais nous la combattons en réfléchissant à la façon dont les logiques de de perte de langage, de perte de sens, etc., se sont mises en place, je crois qu'au contraire, ça peut nous rendre plus forts, et non pas moins forts, face à la violence.
Hélène Leyer.
Oui, alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, la violence est un phénomène humain, il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, chacun d'entre nous sait que la violence est en lui. En principe, il n'y a pas beaucoup d'expérience à faire pour la retrouver en soi. Donc, vous avez raison, c'est très important de revenir à ça, de ne pas considérer que certains sont violents et d'autres non violents. Ça permet de savoir que la violence, elle est toujours éradiquée quand elle peut se réduire au langage. Et là, j'entends bien ce que vous dites sur le FN, même si je considère que c'est un jeu dangereux, parce que si jamais, quand un parti d'extrême droite prend le pouvoir, il est autorisé à pratiquer la violence, donc il peut au contraire semer aussi la violence. Donc c'est vrai qu'on est là sur ce front très très étroit, où un mouvement qui prône des idées violentes, mais à partir du moment où il est dans l'idée, dans le langage, canalise la violence, mais s'il prend le pouvoir, au contraire, il sème la violence dans la société.
Je veux dire que, bon, je ne disais voilà, évidemment oui, pas non, vive l'accès.
Mais non,
disais simplement sûr, si, s'il y a une chute politique, oui. Ça peut avoir ce type d'implication.
Voilà, parce que ça canalise. Et alors, concernant Islam et Occident, du coup, ça me fait penser à l'évolution du mouvement Ennahda en Tunisie. Parce qu'effectivement, là où je suis, je nuance le rapport terrorisme, postcolonialisme, grosso modo, c'est que c'est bien, c'est pas ce que vous faites, vous n'excusez pas du tout, mais certains le font, certains vont jusque-là en disant il faut bien comprendre l'apparition du terrorisme dans les sociétés musulmanes, après la colonisation, c'est des colonisations qui ne sont pas véritablement faites, l'impérialisme occidental, etc. Parce que ça minore complètement l'effort de ceux qui, même en prônant des idéologies conservatrices musulmanes, se situent dans le langage. Et là, on voit très bien Ennahda, aujourd'hui, évoluant encore plus vers la démocratie, se démarquant encore plus des idéologies islamistes terroristes, qui est un mouvement conservateur. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être pro-Ennahda, mais en tout cas, il est rentré dans les voies du langage. Et donc, voilà, je veux dire, c'est le terrorisme n'est pas la seule issue des difficultés postcoloniales.
Enfin, Michel Leviathan.
C'est pour ça que j'ai vraiment dit, le raisonnement que je propose est compliqué. Je dis simplement, il faut faire un travail sur nous-mêmes et pas simplement un travail à propos des autres, pour se donner les moyens de mieux penser la violence et de mieux agir contre elle. C'est ça la position que je voulais présenter. Autrement dit, c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est tellement plus facile de dire répression, guerre, lutte, etc. Bien sûr qu'il en faut. On n'a pas le choix. Mais je pense aussi qu'en réfléchissant mieux à ce qui a alimenté, ce qui a fabriqué avant les pulsions ultimes dont vous avez parlé, mais ce qui a alimenté ces logiques de rupture, cette déstructuration, je crois que c'est quelque chose d'important et c'est l'effort qu'il faut évidemment souhaiter de tous les côtés. Donc ce que vous dites sur Ennahda, évidemment, mais c'est voilà. Et donc je pense vraiment qu'il faut s'intéresser à la capacité de tous les acteurs à mieux, comment dirais-je, penser l'ensemble des problèmes et pas simplement les choses de leur côté.
Mais Michel Viviercas, ça nous aiderait, en réfléchissant sur nous-mêmes, ça nous aiderait à mieux accepter ces violences ou à mieux les combattre ? Est-ce qu'il faut la combattre ?
Alors, il faut la combattre, mais ça nous aiderait à la combattre en sortant de ce qu'un de mes collègues historiens, François Hartog, appelle le présentisme. Ça nous aiderait à la combattre en nous projetant vers l'avenir. Et pas simplement au coup par coup, surveiller qui peut faire un attentat, etc. Non. Moi, je pense que, pour le dire très, très simplement, nous sommes dans une période historique où nous sentons très bien que d'immenses pans de ce qui faisait notre vie jusqu'ici se défont. Ça vacille. Et donc, si nous voulons préparer l'avenir, il ne suffit pas de lutter contre la violence. Il faut comprendre comment on en arrive là. Comment se transforme notre vie politique, ce dont on parlait tout à l'heure. Comment se transforme notre vie sociale. Comment se transforment les jeux géopolitique à l'échelle de la planète, comment se transforme notre rapport à la religion, ou comment il s'exprime. C'est toutes ces choses-là.
Éloge des sciences sociales.
Bon, bien sûr. Et donc, si vous voulez, c'est en réfléchissant comme ça, et pas simplement en faisant confiance à ceux qui, et heureusement qu'ils le font, essaient de nous protéger des futurs actes terroristes ou à sanctionner. Bon, c'est en se projetant comme ça, avec des réflexions en profondeur, qu'on luttera beaucoup mieux et je pense avec beaucoup plus d'efficacité. Il y a un vocabulaire terrifiant en ce moment qui se diffuse en France, ça nous vient du monde anglo-saxon, c'est le vocabulaire de la déradicalisation.
On a déjà la radicalisation, alors, qui est d'ailleurs utilisée pour les syndicats comme pour les nouveaux djihadistes.
C'est très dangereux, très amalgame. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont malades, ils deviennent radicaux, il faut les guérir, il faut les soigner en les déradicalisant. Ben moi, je pense que oui, bien sûr, il faut les prendre en charge, ces gens-là, évidemment. Et ce qui se passe dans les prisons françaises avec des gens qui reviennent de Syrie est très important, très intéressant. Mais bien entendu, dès qu'on réfléchit un peu, on sent très bien que si des gens se sont radicalisés, c'est pas simplement qu'ils ont été pris d'une folie subite, c'est qu'ils ont pensé leur trajectoire, la vie sociale, le monde dans lequel ils sont, et pas seulement parce qu'ils étaient immigrés, parce que, comme tout le monde le sait, il y a des jeunes filles catholiques qui se convertissent, il y a des gens des couches moyennes qui n'ont jamais vu un immigré dont les enfants se retrouvent en Syrie, des choses comme ça. Donc, c'est prendre en charge, sur le fond, tous ces problèmes, et par conséquent, produire d'abord la compréhension, donc la connaissance de ces questions.
Hélène Neuillet.
Peut-être que sur la radicalité, j'ai moi-même été très surprise, hein, effectivement, du succès, hein, de ce terme de radicalisation. Cela dit, il est quand même intéressant, parce que s'il y a une chose qu'on doit faire peut-être au présent, c'est, je suis d'accord avec vous, hein, qu'il faut remonter bien avant l'émergence des phénomènes présents pour les comprendre. Hein, nous, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on a aussi cet effort de nomination à faire de ce qui se passe. Je veux dire, il faut quand même essayer de donner des bons mots, hein, pour savoir ce qui se passe aujourd'hui, qui est toujours dans une certaine mesure inédit quand on a affaire à quelque chose comme aujourd'hui, cette conjonction des différents types de violences, il faut essayer de les nommer. Alors, moi, j'ai été aussi, comme vous, très étonnée par ce terme de radicalisation, par le fait qu'il ait fait florès comme ça. En même temps, il dit quand même quelque chose. Si je reprends votre exemple du début de Sartre et de la préface aux damnés de la Terre de Fanon, et puis la comparaison avec aujourd'hui une réhabilitation de Robespierre, on voit bien l'évolution du rapport à la violence. C'est-à-dire que ce qui séduit dans Robespierre, c'est dans une certaine mesure sa radicalisation. Et aujourd'hui, on a affaire comme ça à ces idéologies violentes qui disent on est radicaux, au sens propre, c'est-à-dire on va à la racine. Hein. On veut changer l'ordre établi en le prenant à sa racine. Hein. Radical, la racine. C'est-à-dire on refuse tout compromis. Tout compromis est une compromission. C'est-à-dire que, évidemment, la violence, c'est le refus du compromis négocié, mais par définition, en quelque sorte. On ne va pas régler les conflits en cherchant une solution négociée, parce que ceux qui ont hâte que ça change ne veulent pas de ce compromis qui est toujours une compromission. La lenteur de l'histoire ne leur convient pas. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui tient peut-être à notre rapport au temps. Alors là, excusez-moi, c'est un philosophe que je vais parler. À notre rapport au temps, à une sorte de temps pulsionnel dans lequel nous vivons, très hâtif, hein, qui fait que...
Le psychanalyste, c'est pas très loin. Hein.
Moi, le psychanalyste, c'est pas très loin. Tout à fait. Qui fait qu'on ne supporte pas la lenteur de l'histoire.
Michel Vivierka.
Oui, mais je pense qu'il y a des responsables politiques qui peuvent effectivement pousser dans un sens ou dans un autre. Je trouve qu'en ce moment, nos responsables politiques hystérisent le débat et hystérisent notre vie collective. Et donc là, il y a un vrai problème. En vous écoutant, je me disais, s'il y a bien une force politique mollassonne, du point de vue des questions, c'est ce qu'on appelle les radicaux socialistes. Et donc, je me disais, oui, c'est vrai, les mots ont un sens. Il faudrait aussi, comment dirais-je, prendre chaque mot que nous utilisons, voir les usages historiques qui en sont faits. Est-ce qu'il faut déradicaliser les radicaux socialistes? Je ne crois pas. Il faudrait plutôt leur demander d'être un peu plus radicaux, justement. Mais le mot de radicalisation, il ne nous dit pas la chose importante. Il ne nous dit rien sur le passage à l'acte. Si vous êtes intellectuellement, politiquement, idéologiquement, dites-le comme vous voulez, radicalisé, c'est-à-dire que vous êtes allé à la racine des choses et vous parvenez à la conclusion que effectivement on n'a pas le choix, on est dans du tout ou rien, dans de l'absolu, c'est pas pour autant que vous passerez à la violence. Et je dirais même, il y a quelque chose de très important, qui est que quand un Mera tue des militaires, puis des enfants juifs, il est tout seul. C'est pas un loup solitaire, d'ailleurs, on l'a appris ensuite. Mais enfin, disons, c'est quelque... Bon. Et donc, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Alors qu'il y en a beaucoup qui pensent plus ou moins comme lui. Et donc, qu'est-ce qui fait que c'est lui qui passe à l'acte, alors que beaucoup se sont radicalisés on rentre vraiment dans des questions délicates, parce que là, l'explication sociologique ne marche pas. mais une explication purement psychologique
ne suffit pas non plus.
Peut-être même très dangereuse. On pathologise. Voilà. Et donc, là encore, je pense qu'il faut circuler entre des
registres. Le point de rencontre, c'est entre l'individu et la société.
Mais en tout cas, pour moi, la question importante, c'est pas de déradicaliser ou d'observer ou de comprendre la radicalité des gens. C'est de comprendre qu'est-ce qu'ils font qu'à partir de là, ils vont discuter ou ne pas discuter. Ils vont se taire ou ils vont à parler. Ils vont parler avec les armes ou ils vont parler avec les mots. Voilà. Ça me semble important.
Et vous disiez l'un comme l'autre que, enfin, avec vos mots différents, vos mots complémentaires, que le passage à l'acte ou l'action directe s'opposait au langage et que la violence, d'une certaine façon, était le court-circuit du langage ou l'échec du langage. Est-ce que ça veut dire que, malgré tout, pour combattre cette violence d'aujourd'hui, il faut retrouver le sens du mot langage politique, mais pas seulement politique, sociale, individuelle, partout, c'est-à-dire travailler sur ce langage, Michel Viverka.
Ben, on vous l'a dit chacun à notre façon, mais je crois qu'on était tout à fait en phase. La violence, c'est la rupture, c'est la non-communication, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mots. Moi, j'ai étudié les terroristes italiens d'extrême gauche, de la fin des années 70, des années 80. Ce qui était très impressionnant, c'est que plus ils étaient pris dans une violence illimitée, dont on ne comprenait plus rien, et plus ils parlaient. Mais c'était une logorée que plus personne ne pouvait comprendre. J'avais quelques compétences en marxisme, léninisme, mais là, j'étais largué. Vraiment, on ne comprenait plus rien. Donc, quand on dit langage, ça ne veut pas dire que les mots ne sont pas utilisés. Ça parle. Il y en a qui ne parlent pas, les terroristes, par exemple. Mais il y en a qui parlent énormément. Ça veut dire... C'est le langage comme capacité de communiquer. Donc que les mots que j'utilise et les mots que vous utilisez, nous sommes capables de les entendre et de nous en servir chacun de notre côté.
Hélène Oeillet.
Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous sommes des êtres de langage et ça explique d'ailleurs ce rapport que vous signaliez entre l'idéologie et le passage à l'acte dans la radicalisation. C'est-à-dire que, à mon sens, on n'a pas vu de passage à l'acte qui n'ait pas été précédé d'une radicalisation idéologique, mais il est vrai que toute radicalisation idéologique ne produit pas un passage à l'acte et même au contraire, parfois, on voit des radicalisations idéologiques qui contiennent le sujet passage à l'acte. Et si déradicalisation il peut y avoir, c'est toujours antérieurement quand même au passage à l'acte. C'est-à-dire quand la bascule du passage à l'acte a eu lieu, il y a un tel remaniement psychique qui est très difficile de revenir en arrière. C'est quand le sujet n'a pas totalement rompu avec un langage qui n'est pas transformé, évidemment, en cette sorte de logorée ou de discours slogan, comme on le voit dans le terrorisme. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes des êtres de langage, donc même le passage à l'acte est accompagné de quelques mots, au moins même de mots slogans, mais évidemment, il n'a pas toujours la signification d'être véritablement un échange, comme vous le disiez.
Oui, tout à fait. Un dernier mot, Michel Viverka.
Oui, je crois qu'il faut être attentif à quelque chose de très important. C'est que je ne parle pas des terroristes actifs, mais je parle de cette nébuleuse, de ces jeunes qui vont en Syrie. Ce sont des gens qui ont basculé dans un univers de sens qui n'est plus du tout le nôtre. Quand j'étudiais les terroristes d'extrême gauche, je connaissais les gauchistes. Je l'avais été moi-même. Quand on s'intéresse au nationalisme, c'est des choses qu'on comprend. Mais là, on est dans un autre univers de sens. Et ça rend très
même
difficile...
Même pour l'islam, même à l'intérieur de l'islam.
Et entre eux aussi. Ouais. Et donc, ça rend très difficile le retour au langage, parce qu'on est dans un autre monde de symboles, d'imaginaires, de capacités de penser le monde.
Tout à fait.
C'est que c'est un langage universel, hein, vous avez choisi.
Oui, mais en même temps, on fait dire
la pathétique
quoi.
De Beethoven.
Oui, j'ai choisi la pathétique. Mais il y a un livre que vous connaissez sûrement de Bush sur l'hymne à la joie. Il montre que les usages politiques de Beethoven. Alors là, c'est l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre, la droite, tous les régimes sont censés. Mais ça me plaisait assez de mettre ça ici.
Oui, c'est très très beau. C'était par Daniel Barenboim, le premier mouvement de la sonate pour piano numéro 8 en do mineur. Merci beaucoup Michel Vieviorca, on l'écoutera en longueur dès qu'on pourra. Merci à vous Hélène Leuillet d'être venue au micro de la Grande Table aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, Raphaël Bourgois, Henri Leblanc, Jeanne Aléos, Clémence Marie et Lucie Aubourg. À la réalisation, c'était Marie-Laure Ciboulet et la technique Théo Gomard.